des droits du roi. Vous avez eu la version biblique, la version modernisée et la version adaptée. Le problème, c'est que malgré cette présentation, le peuple maintient, vous voyez ce qui est écrit, verset 19, le peuple refusa d'écouter Samuel. Justement, on parlait d'écouter tout à l'heure. Vous voyez, on va retrouver ça souvent dans le texte d'aujourd'hui. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Il était déterminé. Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous et nous serons comme les autres nations. Alors, voilà, comment ils ont défini les choses. Tant pis, il y aura un roi sur nous. Nous serons comme les autres nations. Notre roi nous jugera. À l'époque, ça voulait dire nous gouvernera. Il sortira devant nous et il conduira nos guerres. En anglais, c'est un petit peu plus précis. He will fight our battles. Il combattra nos batailles. Alors, c'est intéressant. J'allais passer là-dessus, puis je me suis dit, mais non, c'est intéressant parce que c'est vraiment la tendance naturelle de l'homme. L'homme n'a pas changé. C'est nos tendances naturelles que la Bible appelle charnelles, c'est-à-dire naturelles, hein, humaines. Premièrement, être comme les autres. Sans réfléchir si ce que les autres font, c'est bien ou mal. Combien de fois on a envie de faire ou d'être comme les autres et on passe pas de temps pour dire, mais au fait, qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que ça plaît à Dieu? Mais on a envie de faire et être comme les autres. C'est une tendance profondément naturelle. Il ne faut pas la nier, on l'a tous parce qu'on est tous humains, que je sache. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre parce que parfois ça peut nous entraîner à des choses qui ne plaisent pas du tout au Seigneur. Hein. Moi, je me souviens quand les enfants étaient petits, hein, souvent, je disais, ben non, tu ne vas pas faire ça. Mais tout le monde le fait. Tous les autres le font. Ah, peut-être, mais toi, tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas. Ah, tous les autres, ils trichent, ou tous les autres, et ça, vous savez, à l'école, c'est, ben oui, mais toi, tu ne peux pas le faire. Parce que ça ne plaît pas au Seigneur. C'est une tendance naturelle. Tout le monde le dit. Oh, combien de fois on entend ça? Oh, mais c'est ce que tout le monde dit. Parfois, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait exact. Il y a 3 personnes qui le disent sur 50, mais tout le monde le dit. Hein? Et on a tendance vite à généraliser les choses. Ensuite, même si c'est vrai, c'est jamais totalement vrai. Vous vous rappelez, Élie? Tout le monde suit les idoles. Il n'y en a pas un qui ne le fait pas. Puis Dieu dit, attends, Élie, il y en a 5000 qui n'ont pas plié le genou. D'accord, 5000 sur une population, c'était peut-être pas beaucoup, mais c'était quand même 5000 hommes, ça voulait dire 5000 familles. Hein? Voilà. Donc, attention au tout le monde. Attention au tout le monde. Tout le monde le fait, tout le monde le dit. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu me demande? Parce que ça peut aussi être quelque chose de bien, mais est-ce que c'est quelque chose que Dieu me demande à moi? Et malgré la pourriture d'une grande partie de notre société, moi je remarque quand j'écoute les nouvelles ou quand je les regarde là sur l'Express ou voilà, sur Internet, je remarque que malgré la pourriture de notre société, on loue encore les gens intègres. On fait encore des compliments à ces gens-là. Les gens qui ont été intègres en affaires ou même en politique, qui ont tenu ferme pour ne pas faire comme les autres. On leur fait des compliments. Oh, surtout au moment de leur mort d'ailleurs. Souvent, on attend qu'ils soient morts, d'ailleurs, pour leur faire des compliments. Alors, nous, non, il faut quand même qu'on les fasse avant. Hein. Mais moi, je remarque quand même que les gens du monde savent reconnaître. Et quand quelqu'un remonte un peu à contre-courant, on dit, non, moi, je ne serais pas pourri comme ça. Non, moi, je procéderais pas comme ça. Les gens sont là, waouh, il a eu du courage, c'était un homme de valeur. Et on fait tout un panégyrique. La question que nous, faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Est-ce que je fais comme tout le monde où je cherche à faire ce que ferait Jésus? Et là, les réponses sont intéressantes hein, quand on se pose la question. C'était toujours la question de ma mère, quand je discutais avec elle sur quelque chose. Bon, et qu'est-ce que ferait Jésus? Voilà, ça change tout. Deuxièmement, alors, premièrement, être comme les autres, ça c'était leur problème. Deuxièmement, avoir un leader à suivre. Alors ça, c'est à double tranchant. C'est sympa d'avoir un leader à suivre, mais le côté sympa, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Pourquoi est-ce que les dictatures marchent si bien, parfois? On se dit, mais mince purée, pourquoi ils gardent des dictatures comme ça? Mais parce qu'il y a un bon côté à la dictature. Il y a le côté, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de chercher par moi-même, je fais, je suis, lui il gouverne, il assume, il est responsable s'il y a un pépin, et puis j'ai pas besoin de me remettre en question. André appelle ça de la paresse. C'est une forme de paresse. Hein, dire, voilà, on aura quelqu'un qui nous gouverne. Notre roi nous gouvernera, il nous jugera. C'est lui qui se débrouille avec Dieu. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a des tas de dictatures qui se sont installées, entre autres celle d'Hitler. Hein. Mes parents qui ont vécu cette période me disaient, mais il a fait des tas de bonnes choses, cet homme. Il a su s'y prendre. Et après, les gens, confiance aveugle, et on l'a suivi. Et on a vu où est-ce que ça mène. Donc attention. La Bible met en valeur les Béréens. Vous vous souvenez, ces gens, quand on leur annonçait l'évangile, ils cherchaient les Écritures pour voir si on leur disait des choses justes. C'est important. Et dans les églises, c'est hyper important. C'est important parce que l'erreur est humaine. Parce que, voilà, on peut se tromper. C'est bien que tous les chrétiens cherchent. Tiens, il a dit ça, j'avais jamais entendu. Et on vérifie, et on cherche, et on réfléchit. C'est bien. C'est bien. Il y a beaucoup de sectes qui se sont créées comme ça parce que les gens n'ont pas réfléchi. Ils ont suivi un gourou quelconque, qui peut-être au départ était pas mal d'ailleurs. Hein. On en a connu comme Branham ou autre, qui des gens qui ont très bien démarré dans l'évangile. Et puis bon, parce que les gens les ont suivis aveuglément, les ont pas repris, les ont pas aidés à rester fidèles à la parole de Dieu, ils ont dévié. Alors bien sûr, à l'autre extrême, hein, la Bible nous encourage pas à la contestation systématique. Hein. D'autant plus que souvent l'esprit contestataire provient de blessures non guéries. Je pense que les Français doivent être très blessés. Parce que l'esprit contestataire, on s'aperçoit que c'est des blessures non guéries, un profond mal-être. Alors on attaque, on va critiquer le comportement ou les actions des autres pour alléger, soulager un peu le mal-être intérieur. Donc quand vous avez envie de mordre, d'attaquer, de critiquer, essayez de réfléchir si derrière il n'y a pas une blessure qui vous pousse à agir comme ça. C'est humain. Mais la Bible nous met constamment en garde sur le fait de se confier aveuglément en l'homme. Donc, sans être contestataire à tout craint, hein, mais attention de ne pas se confier aveuglément en l'homme. À commencer par nous-mêmes, quand cet homme, c'est nous-mêmes. Hein. Voilà. Et je dis bien attention aux extrêmes. Combien d'hommes et de femmes de Dieu sont tombés misérablement parce qu'on les suivait aveuglément. Je viens de vous en parler, on les idolâtrait. Et à l'autre extrême, combien d'autres sont tombés aussi sous les critiques acerbes et constantes. Donc vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre la parole de Dieu. Hein. Savoir ne pas suivre aveuglément un homme, mais savoir non plus pas le démolir et pas le détruire. La sagesse, la Bible dit, est dans le grand nombre de conseillers. Et c'est ce que Dieu voulait pour les rois. D'ailleurs, on va le voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chapitre 10, verset 26. Dès que l'onction a été donnée au premier roi d'Israël, Saül, et j'aime beaucoup ce verset, Dieu me l'avait donné il y a plusieurs années, j'ai souvent prié sur ce verset, Saül fut accompagné par des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Et ces hommes de valeur dont Dieu a touché le cœur, ils sont là pour protéger le roi, protéger le responsable. Et de quoi est-ce qu'un leader a besoin ? Que ce soit dans l'église ou au travail. De quoi est-ce qu'un leader a besoin? Je pense que le patron d'Olivier le sait très bien et il en est parfaitement conscient. Un leader, il a besoin d'hommes de valeur dont Dieu a touché le cœur autour de lui pour éviter justement les excès. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément, mais aussi pour l'encourager. Être accompagné de gens de valeur dont Dieu a touché le cœur. Parce que ça ne suffit pas d'être un homme de valeur. Si le cœur n'est pas touché par Dieu, un jour ou l'autre, ça ne va plus aller. D'homme de valeur dont Dieu a touché le cœur. J'aime beaucoup ce verset. Et ça fait des années que je prie pour ça, que dans l'Église, on ait des hommes de valeur dont Dieu a touché le cœur. C'est aussi la sécurité pour rester une Église ouverte, une Église à l'écoute, où on peut travailler en équipe. Alors, je vous rappelle mes versets favoris. Jérémie 17, 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est grave! Maudit. Et même si cet homme en question, c'est nous-mêmes. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. On ne peut pas mettre à 100% notre confiance, ni en nous, ni dans les gens qui nous entourent. C'est pas qu'on manque de confiance, qu'on, oh oui, on vous fait pas confiance, non. Mais c'est parce qu'on est humain. Et on est tous faillibles. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Alors pour eux, c'était plus simple de se confier dans un roi. Pourquoi ? Parce que le roi, on le voyait, on pouvait l'admirer. Mais se confier en Dieu, en un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas le droit de représenter, c'était un problème. Donc, on veut un roi pour nous gouverner. Parce que Dieu, c'est bien, mais voilà. Troisièmement, il sortira devant nous et guerroiera pour nous. C'est une traduction. Fight our battles, il va combattre pour nous. Ah bah tiens, si c'est pas de la paresse, ça. Il sort devant nous et puis c'est lui qui va se battre pour nous. Il aura une armée de métier. Le but de Dieu, je ne sais pas si vous savez, c'est quand ils sont arrivés en Canaan, c'était que les tribus s'entraident. Hein? Et on voit ça d'ailleurs à certains moments où certaines tribus vont rejoindre les tribus du sud pour les aider, puis après les tribus du milieu vont aider les tribus du nord. Enfin, l'idée, c'était une entraide du peuple pour se battre et chasser les ennemis. C'était bien comme principe. Mais eux, ce qu'ils veulent, un roi qui va guerroyer pour nous. Il va avoir son armée de métier, il va se battre pour nous. Alors, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus pratique que de consulter Dieu à chaque bataille pour savoir quoi faire. Ah ça y est, les Philistins ont attaqué telle ville. Bon allez, on va aller voir le sacrificateur. Consulte l'Éternel pour nous, fais un sacrifice pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et le fait sacrifice, il attend, il revient. Eh bien le Seigneur a dit, vous mettez le groupe de louanges devant et puis vous allez chanter des cantiques et c'est Dieu qui se battra pour vous. Bon, la fois suivante, oh, il y a les Moabites qui nous ont attaqués, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le sacrificateur, on consulte l'Éternel. L'Éternel dit, ah cette fois-ci, vous descendrez par la colline, vous fondrez sur eux. De toute façon, ils vont tellement avoir peur, ils vont se sauver, vous n'aurez même pas besoin de vous combattre, c'est moi qui combattrai pour vous. Enfin, je cite hein, tout un tas de guerres qui ont eu lieu. C'est fatigant ça, chaque fois, il faut demander à Dieu, il faut écouter. C'est quand même mieux quand on a un roi qui combat pour nous, il va devant, il se bat avec son armée de métier et c'est réglé. Quand on lit ça superficiellement, on ne se rend pas compte, mais en fait c'est ça qu'ils avaient en tête. Hein. À chaque attaque, il fallait chercher Dieu. Et alors Dieu levait des gens. Une fois c'était Déborah, une fois c'était Gédéon. Une fois il faisait tout seul, un énorme orage. Et puis... Mais ça crée une dépendance, vous vous rendez compte? Et pourtant Dieu avait dit, je ne sais pas combien de fois, je me suis amusée à chercher hier, Exode 14, je ne vous donne pas les versets, mais Exode 14, Deutéronome 1, Josué 10, 2 Chroniques 20, Néhémie 4, ça dit quoi? Je combattrai pour vous. Mais oui, mais Dieu, il faut, hein, voilà, ça crée une dépendance. Et on n'a pas trop envie. Allez, écoutez Dieu, lui demander ce qu'il faut faire. On est humain. Relation, écoute, on en a parlé ce matin. Dépendance, obéissance, c'était les conditions. Ben, c'était trop dur. C'est dur. Et nous, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'aime pas parfois que quelqu'un se batte pour nous? Quelqu'un d'autre. Alors quand on est nouveau-né en Christ, c'est normal. C'est normal. Mais au bout de certains nombres d'années, il faut aussi apprendre à se battre. Je me souviens quand André avait invité, comment il s'appelait de son prénom, Herzog? David Herzog. Il l'avait invité ici, on est dans une période très troublée, et il avait vraiment reçu quelque chose pour nous. Et il nous avait expliqué, il dit, bon, avant, moi, quand j'allais comme ça aider une église, je jeûnais, je priais pendant une ou deux semaines. Je me préparais, 40 jours. Et maintenant, non, c'est fini. Hein. Je demande aux gens de l'église de jeûner et prier. Et il n'avait pas tort. Mais ça m'avait amusé, sa réaction, parce qu'il a fait ça pendant, je ne sais pas, des mois ou des années. Puis un jour, il dit, mais au fait, c'est à eux aussi de se battre. Hein. Voilà, Marc Brisebois, c'était pareil. Et le goût des intermédiaires, c'est pas seulement dans l'Église catholique. C'est la nature humaine. Être remorqué par quelqu'un qui va prier et jeûner pour nous. C'est pas sympa, ça? C'est juste à se laisser rouler. Alors, c'est bon pour une période difficile, et Dieu l'a prévu pour les périodes difficiles. Hein? Il y a eu des périodes difficiles dans nos vies où des gens ont prié et jeûné pour nous. Et nous ont soutenus, nous ont portés. Bon, 15 ans après, c'est fini quand même. Continue à prier pour nous. Mais je veux dire, il y a des moments dans la vie où on doit être porté et on doit aussi accepter d'être porté. Quand vraiment on n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Mais ce n'est pas un mode de vie en permanence. Dieu pourvoit ça dans les moments difficiles. Et attention aussi à nous-mêmes de ne pas réunir autour de nous des gens comme une locomotive avec ses wagons. Hein, dans les églises, on voit souvent ça. Il y a un certain nombre de locomotives, puis tout un tas de wagons accrochés derrière. Aïe, aïe, aïe. Il faut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Et avoir un tas de locomotives derrière soi, c'est pas bon. C'est permis à l'école du dimanche, c'est permis encore un peu au groupe de jeunes. Mais il y a un moment où toutes les locomotives doivent devenir des wagons et ça ne doit pas rester... tous les wagons doivent devenir des locomotives. Vous écoutez, c'est bien. et voilà, hein, c'est clair. Et il y a un verset justement que j'ai noté ici et j'y pensais beaucoup ce matin à cause de tout ce qui se passe dans l'Église en ce moment. C'est Juges 3, verset 2. Pourquoi j'ai laissé des ennemis dans votre pays? Pourquoi vous avez des attaques comme ça? Et la réponse, c'est chapitre 3, verset 2. Pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre. Pourquoi est-ce que David a été malade hier? Entre autres, pour que vous connaissiez la guerre. Et la vie chrétienne, hein, vous appreniez, oui, vous connaissiez et appreniez à faire la guerre. La vie chrétienne, moi j'aimerais bien que ce soit un tapis de pétales de rose. Franchement, je trouve dommage qu'on ait besoin de se battre comme ça. Et quand j'irai au ciel, je vais protester. Mais c'est la réalité. C'est vrai qu'on en vit parce que c'est dur. C'est dur et c'est pas marrant. Et on pleure et on est malheureux. Mais c'est la vie. Et il faut apprendre à se battre. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre en ce moment en tant qu'Église? Pourquoi on a ces attaques? Pourquoi on a ces problèmes? Pourquoi il y en a un qui tombe derrière par terre et puis il y a l'autre qui est malade? Et... parce qu'il faut qu'on connaisse et qu'on apprenne la guerre. Et franchement, pour les jeunes, alors moi j'ai vieilli, mais pour les jeunes c'est sympa. Une vie avec de l'action. La vie chrétienne, on ne s'ennuie pas. Comme dit toujours Julie, hein, s'ennuie pas. Mais c'est vrai, on n'a pas le temps. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et d'un moment à l'autre, il vous fonce dessus, il fonce sur vos amis, sur les frères et sœurs de l'église. Et puis, il séduit celui-là, il endort cet autre. Et boum, et puis il y a les décès aussi. Et ça, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu, on n'y peut pas grand-chose. Mais n'empêche qu'il faut se battre pour retrouver le... Voilà, après les décès, c'est dur. La vie chrétienne, c'est intéressant. Parce que le problème, c'est qu'on se bat, mais on a des victoires. Et les victoires, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on en a, et on en aura d'autres. Mais je pense vraiment que ce que Dieu veut, c'est que les générations qui n'ont pas vécu tout ce que nous, on a vécu, connaissent et apprennent la guerre. On est désolé parfois, pour terminer avec ça, de voir une église qui se vide après le départ d'un pasteur. Ça arrive malheureusement souvent. Pourquoi? Parce que ce pasteur-là se battait pour eux. Et eux, est-ce qu'ils ont appris à se battre? Ben non. Oh, il est super cet homme. Ouh, il est génial. À la limite, il ne faut pas être trop génial. C'est bien, on est sauvés. Parce que quand le pasteur se bat, et on en a connu des types vachement bien. Hein. Alors l'église... elle est dans son petit fauteuil et puis on se met un petit coussin dans le dos et puis voilà, elle attend que ça passe et ça marche et ça roule. Le gars, il s'épuise, il se bat. Quelquefois, il y a une petite équipe avec lui. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour les chrétiens. Ces chrétiens-là, est-ce qu'ils ont appris à se battre? Non. Du coup, quand le gars, il est parti parce qu'il a déménagé ou il est décédé, bah, l'église se vide comme un ballon qui se dégonfle. Il a servi d'intermédiaire, il a servi de leader visible, pratique. Mais ce n'était pas le but de Dieu. C'est bon de se brancher sur Jésus et d'amener les autres à se brancher sur Jésus. Le seul travail qu'on a à faire pour les autres, ce n'est pas de les remorquer derrière nous, mais c'est de leur dire, viens te brancher sur Jésus. Je vais t'apprendre à te brancher sur Jésus, mais je ne vais pas te remorquer. Pour que les gens ne dépendent pas de nous, mais qu'ils dépendent de Dieu. Et c'est vrai pour les parents avec les enfants. Apprendre aux enfants à dépendre de Dieu. Sinon, la vie chrétienne, elle n'est pas marrante, parce que vous vivez, comme je vous ai déjà dit, sur la carte de crédit de vos parents, c'est nul. Et c'est mieux d'avoir sa propre carte de crédit, d'avoir son compte en banque, voilà. Et vous pouvez l'avoir spirituellement très très tôt, très très tôt. D'où l'importance aussi dans l'Église des équipes qu'on met en place aussi en ce moment, j'y ai pensé, hein, pour l'entraide, pour éviter aussi le culte de la personnalité. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Or, c'est vrai pour les leaders, c'est vrai pour chaque chrétien dans notre vie, qu'il croisse et que je diminue. Donc accrochez-vous à Jésus, lui il ne vous décevra pas au moins. Puis en plus il a un plan génial pour votre vie. Voilà, c'était les trois problèmes qu'avaient les juifs de l'époque Et on va arriver au moment où Dieu va dénicher Saül. Alors on commence au chapitre 9, vous avez vu, par la présentation de Saül. Il voulait un roi comme les autres nations. Moi, je m'étais toujours demandé, est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que ça, c'est pas possible, donc c'est foutu? Est-ce que Saül a joué la comédie? Je me suis toujours posé plein de questions. Et en fait, c'est tout simple. Il voulait un roi comme les autres nations. Donc comment est-ce que Dieu va choisir ce roi? Selon les critères et les valeurs des autres nations. C'est tout bête. Donc attention à ce qu'on demande à Dieu, hein. Et quels sont les critères et les valeurs des autres nations? L'apparence, la force, la richesse, la naissance, c'est-à-dire la généalogie. Saül est le fils d'un homme important et puissant. Quelles que soient les traductions, parce que là j'ai travaillé un petit peu, les mots ne sont pas toujours très clairs, mais ça ressort, important et puissant. C'est un homme d'élite, très beau. Une autre traduction dit capable et compétent. On est dans les bons critères. Il est plus beau qu'aucun Israélite. Ben tiens, pour un roi, ça fait pas mal. Et plus grand que tous, ça c'est génial, il a une tête de plus que tout le monde. Il voulait un roi comme ceux des autres nations. Dieu leur a donné un roi avec les critères des autres nations. On ne parle absolument pas de son cœur, de ses dispositions à l'égard de Dieu, de son caractère, comme disent les Anglais. Rien. Parce que ce n'est pas ce qui préoccupait les autres nations. L'apparence, elle est respectée. Et en cela, Dieu va respecter la demande des Israélites. Il leur donne ce qu'ils ont dans le cœur et ce qu'ils souhaitent au fond du cœur. C'est ça qu'ils voulaient, il leur donne. Il leur donne ce qui est visible. Rappelez-vous la définition de Jésus dans Isaïe ? Il n'avait rien pour nous plaire, rien pour attirer le regard. Aïe, 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 on a tout à fait dans un autre domaine là. Il donne ce qui est supérieur, plus que. Le roi devait être nécessairement plus que. On va être mal avec David qui était moins qu'eux. Mais lui, il était plus, hein. Il n'y a pas de souci. C'était bien les critères des nations. Alors que Deutéronome 17:20 disait que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Mais là, on ne parle pas de son cœur à ce brave Saül. Il est beau, il est grand, il est magnifique, il a une belle apparence, tout le monde est content. Et là, ça m'a fait réfléchir, attention à ce qu'on demande à Dieu, à nos motivations. Parce que parfois, Dieu va céder. Il va en profiter pour nous enseigner. Surtout si c'est devenu une idole dans notre vie. Il va nous apprendre plein de choses. Et je pense à la vie, parce que vous savez, les gens du monde, Dieu les aime aussi, hein. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que pour nous. Oh, relisez Jonas, dernier verset. Dieu aime tout le monde. Et il s'inquiète de la vie de tout le monde. Et je pense à la vie de certains artistes, mannequins, acteurs, grands PDG, hommes politiques, auxquels Dieu a permis d'accéder à leurs rêves. Rêve de gloire, rêve d'honneur, de pouvoir. Dieu a permis, c'est ce que dit la Bible, hein, Dieu le permet. Je pense aussi à des frères et sœurs qui ont poursuivi leurs rêves jusqu'à ce que Dieu leur accorde. Mais les motivations n'étaient pas justes. Et ils apprennent beaucoup de la vie dans ces moments-là. Je ne vous fais pas de dessin. Lisez un peu les magazines. Vous allez voir comment tous ces hommes politiques, une fois qu'ils sont là-haut, les artistes. J'ai lu récemment la vie de grands artistes de cinéma. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus où. J'étais tombée sur un journal et j'ai regardé un petit peu. Oh, les déceptions, l'amertume. Eh oui, la gloire, le pouvoir. On apprend beaucoup quand on réussit son rêve. Mais ce n'est pas toujours ce que Dieu avait prévu pour nous. Donc examinons-nous nous-mêmes. Si nos rêves sont en accord avec le Seigneur, vous inquiétez pas, ils se réaliseront. Alors je ne suis pas toujours d'accord avec les prédicateurs qui disent « Poursuivez votre rêve, il se réalisera, etc. » S'il est en accord avec le Seigneur, oui. Ce n'est pas toujours évident. Même nous chrétiens, on peut avoir des rêves qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. On est humain quand même. Ça arrive. Oh, je voudrais être ceci ou faire cela. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a réservé. Parfois oui, tant mieux. Parfois non. Parfois, Dieu nous réoriente. J'ai fait des tas de choses dans ma vie que je n'aurais pas du tout voulu au départ. Puis finalement, je trouve ça sympa. Mais attention, attention que nos motivations soient selon le Seigneur. Examinons-nous nous-mêmes. Parce que si nos rêves sont vraiment en accord avec le Seigneur, il n'y a pas de souci, ils se réaliseront. Mais si nos rêves viennent de notre chair, de notre nature, on va avoir des problèmes, on va apprendre beaucoup de choses, mais ça va faire mal. Rappelez-vous Jésus qui disait qu'il te soit fait selon ta foi. Il écoute nos motivations, il écoute. Et là, il a écouté le peuple d'Israël. Tu veux l'apparence ? On va te la donner. Ouh, les pauvres. Un aspect intéressant de ces histoires est souligné par les détails. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils ont lu tous les détails qu'il y a dans ce texte, quand vous pensez que parfois Dieu va résumer une vie en 4 versets, puis là, misère, tous les détails qu'il y a, et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tant de détails ? Bah d'abord parce que quand Dieu décide quelque chose, il veut nous montrer qu'il met tout en œuvre pour que ça marche. Tout ! Tout et tout, c'est vraiment tout. Il dirige l'histoire avec un grand H, mais il dirige aussi votre histoire de tous les jours. Donc les détails sont importants. D'abord, on voit qu'il organise les circonstances. Il permet que les ânesses se perdent. Moi, j'ai souvent perdu mes chiens, mais je ne suis pas devenue reine pour autant. Mais... il permet des choses, quelquefois, qui sont un peu dramatiques. Apparemment, les ânes, c'était le moyen de transport de l'époque. Donc c'est comme si vous perdiez toutes vos voitures. Toutes vos voitures. Ils étaient riches quand même. Il permet que le serviteur de Saül connaisse Samuel. Bizarre. Saül ne le connaissait pas. Ça, pour moi, c'est pas très bon signe. Si son serviteur savait qui était Samuel, comment se fait-il que Saül ne le savait pas? Pour moi, ça sent le roussi, ça, déjà. Il conseille Saül de consulter Samuel. Et puis même les jeunes filles, elles sont là pour dire où est Samuel. On ne peut pas faire mieux. Alors, tous les détails sont là, toutes les circonstances sont là pour que ça marche. Comment ça se fait? Alors d'abord, on voit qu'un problème, une difficulté qui va permettre aux deux hommes de se rencontrer. C'est un problème. Alors là, je voudrais nous encourager. Nos difficultés d'aujourd'hui peuvent devenir des sources de bénédiction. On l'a déjà dit, on le redit. Des difficultés d'aujourd'hui peuvent devenir des sources de bénédiction. Il a perdu ses ânesses. Bon, ça vous fait rigoler, mais ça, eux, ils rigolaient pas. C'était tout leur parc de voitures qui avait disparu. Tout leur tracteur, leur transport. Imaginez un fermier qui perd tous ses tracteurs, tous ses voitures. Il est mal, sa moissonneuse, tout ça, voilà. Un problème qui devient une source de bénédiction. Il va courir après ses ânes par obéissance à son père. Ah tiens, Saül savait obéir, tout au moins au début. Et Dieu l'attend pour le nommer roi. Non, vous imaginez la situation ridicule. Il court la campagne pour retrouver des ânes, et il revient avec l'onction royale. C'est pire qu'un conte de fées, hein, cette histoire. Mais Dieu nous montre que quand il tient les circonstances dans sa main, il peut vous faire de ces trucs incroyables. Vous démarrez pour trouver un job qui est moyen, même médiocre, puis vous vous retrouvez avec un job sensationnel. Mais c'est vrai, le Seigneur peut, vous inquiétez pas, au début, oh là là, j'ai pas eu le job que je voulais, et puis oh, je fais des trucs inintéressants, etc. Si vous êtes fidèle dans ce que vous faites, si ça se tombe, ce boulot va devenir quelque chose de formidable pour vous. Qui sait? Je l'ai vu ça dans l'église. J'ai vu des gens vivre ça. Attention, les difficultés d'aujourd'hui peuvent devenir des sources de bénédiction. Et Dieu est champion à organiser ce genre de choses. Ça, alors là, ça fait partie des choses qui m'enthousiasment dans la vie. Comment Dieu va organiser des trucs débiles, des trucs vraiment lamentables pour en faire « waouh ». Ça, c'est génial. Ensuite, il a déjà parlé à Samuel la veille. Il va confirmer ses paroles quand Samuel voit Saül pour la première fois. Il met tout de son côté. Hein. Il organise des circonstances les plus incroyables. Il parle à Samuel déjà avant et il lui reconfirme derrière. Bah, dis donc. Samuel obéit à Dieu, encore une fois, et il explique à Saül ce qu'il doit faire. Alors là, c'est intéressant. C'est précis. Monte avec moi vers le haut lieu. Tu mangeras avec moi. Je te laisserai partir demain matin. Je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Une autre traduction dit « je t'enseignerai ». Les ânesses seront retrouvées. Ça, c'est pas mal, ça le rassure. Et puis là, il fait une allusion à la royauté. Est-ce que le peuple n'attend pas quelque chose de toi? Et Saül. Et là, Saül est dans de bonnes dispositions. C'est un bon gars au début, Saül. Il obéit. Je l'ai mis en majuscule. parce que chez Saül, ça reste pas longtemps, donc faut bien le remarquer. Au début, il obéit. Il obéit, mais il demande quand même pourquoi, parce que là, il est un peu perdu. Samuel va le placer à la tête des 30 invités le jour du festin qui est fait à l'occasion du sacrifice. Il lui fait donner la part royale, la meilleure part. C'était la cuisse apparemment, le gigot quoi. Il l'accompagne après le lendemain. Il a un entretien avec lui sur le toit de sa maison. La Bible ne dit pas ce qu'il lui a dit. Il l'accompagne à la sortie de la ville. Il envoie un petit peu le serviteur devant pour pouvoir lui parler. Il lui donne l'onction royale privée. Alors, curieusement, Saül va avoir 3 onctions royales. Une première, là, privée, même le serviteur n'est plus là. Et puis, il lui dit, Dieu t'a appelé pour être le conducteur de son héritage. Et là, c'est important. Parce que, il faut remarquer, et c'est vrai à cette époque-là, mais c'est vrai toujours aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est son héritage. C'est-à-dire qu'il appartient à Dieu. Il n'appartenait pas au roi. C'était très clair. Et là, j'ai vu d'autres textes bibliques qui sont très clairs. Le peuple n'appartenait pas au roi, il appartenait à Dieu. Et c'est important de penser aussi que l'église locale, n'appartient pas à son berger, elle appartient à Dieu. Et si vous entendez différemment, pour moi, c'est vraiment pas biblique. Si certains pasteurs osent dire que, quelque part, les gens qui sont dans leur église, ils ne doivent pas partir parce qu'ils appartiennent, etc. Les gens appartiennent à Dieu. Vous savez, les bergers, vous savez à qui appartient le troupeau quand le berger il emmène ses troupeaux en transhumance? À un propriétaire. Ils ont souvent des marques peintes maintenant. Autrefois, on les marquait au fer rouge, c'est horrible. Mais ils peignent souvent des trucs indélébiles en Angleterre. Il y a du bleu, du rouge. Là, j'ai vu dans le Lancashire, c'est trop rigolo. Ils appartiennent à un propriétaire. Ils appartiennent pas au berger. Le berger, il est là pour soigner, pour entretenir, pour guider, donner à manger. Mais ça ne lui appartient absolument pas. C'est important de s'en rappeler, parce que c'est pareil pour l'église. L'église locale appartient à Dieu. Le berger, il fait son boulot de berger. C'est important pour tous les leaders, ça. Que ce soit les leaders de jeunes, leaders de louanges, leaders d'une église, les gens appartiennent à Dieu et absolument pas aux leaders. Alors j'imagine que Saül avait besoin de beaucoup de confirmation, parce qu'il est en train de chercher des ânes, et puis brutalement le parachute roi. Dieu a été hyper généreux en signe de confirmation. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aimerais bien en avoir autant, quand j'en demande à Dieu. Parce que là, il faut dire qu'il en a eu, des signes. Non mais j'en ai une page entière, je dis, c'est pas possible. Ensuite, c'est pas terminé, les signes de confirmation, il rencontre 2 hommes, qui lui disent, les ânesses sont retrouvées, maintenant ton père s'inquiète pour toi. Et il prévoit au tombeau de Rachel. Et il dit, et même où? Ensuite, tu vas aller aux chênes du Tabor. Et tu vas avoir 3 hommes. Il y en a un qui aura 3 chevreaux, l'autre 3 pains et une outre de vin. Ça ressemble un peu au conte de fées. Et il y en a un qui va lui donner 2 pains. Alors bon, alors là, moi, j'ai un peu déraillé parce que je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi sur 3 pains, il lui en donne 2? Est-ce qu'il y a un symbole que les gens à l'époque comprenaient? Puis tout d'un coup, je me suis dit, à moins que ce soit le Seigneur qui me l'ait dit, mais ils avaient faim, ces gens, c'est tout. Dieu leur a donné du pain pour la route, c'est tout. Mais vous voyez, parfois, quand on lit la Bible, on cherche un petit peu trop loin. Évidemment, ils n'avaient plus rien à manger, c'est ce qu'ils avaient dit avant. On ne peut plus rien donner aux prophètes, on n'a rien dans nos sacs. Donc, Dieu a pourvu aux provisions, tout simplement. Puis un troisième lieu, Gibeah Elohim, c'est une troupe de prophètes, alors là c'est complexe, avec des instruments, l'Esprit de Dieu va s'emparer de toi, tu prophétiseras, tu seras changé, puis tu fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, si on regarde bien, Dieu va pourvoir à leurs besoins moraux, les soucis. Il calme leur esprit, leurs soucis, les ânesses sont retrouvées, c'est plus la peine de vous faire du mouron. La moissonneuse, les voitures, tout est retrouvé. Dieu pourvoit leurs besoins moraux. Et ça, c'est intéressant que Dieu pense à ça. Vous ne trouvez pas? Parce que finalement, ce n'est pas très grave. Il allait devenir roi. Qu'est-ce qu'il en avait à faire des ânesses? Dieu pense à nos soucis moraux. Quand vous faites du mouron pour quelque chose, Dieu y pense. Les besoins physiques, bah oui, 2 pains sur 3. La nourriture pour la route, il y pense. Quand on est malade aussi, Dieu répond. Et les besoins spirituels, Dieu pourvoit à l'esprit qui va venir sur Saül et va le transformer pour qu'il soit capable d'être le roi qu'il doit être. Alors autrement dit, le peuple veut un roi, Dieu n'est pas d'accord, Samuel n'est pas d'accord, mais Dieu dit ok, je vais vous l'accorder, mais il ne se contente pas de ça. Et je trouve que Dieu est vraiment sympa. Il va réunir toutes les conditions pour que Saül réussisse. Sinon, on pourrait dire, ah bah oui, Seigneur, hein, toi, tu es tout puissant, hein, tu nous as donné un roi comme les autres nations, selon les critères du monde, et puis voilà, tu nous l'as balancé, il est un peu pourri celui-là, et puis après, nous, il faut qu'on se débrouille avec ce roi. Non, il va aller jusqu'au bout de sa bonté et de sa générosité. Vous voulez un roi comme ça, je vous le donne. Vous voulez ses critères d'apparence, je vous les accorde. Mais bon, il faut qu'il soit roi, je pourvois à ses soucis, je pourvois à ses besoins physiques, je vais pourvoir à l'Esprit de Dieu qui va venir sur lui pour le rendre capable d'obéir et de servir. Wow, si ce n'est pas la générosité de Dieu, ça. Et en plus, il n'était pas d'accord. Ça nous donne une autre image de Dieu, hein, que le père Fouettard qui est là en disant « Ouh, Jean-Samuel, t'as fait une bêtise. Je t'attends au coin du bois et je vais te retomber dessus. » Non, pas du tout, hein. Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez cette générosité qu'il a. Il réunit toutes les conditions pour que ça marche. Et après, quand ça ne marchera pas, on ne pourra pas dire, oh ben c'est Dieu. Hein. Voilà, non, pas du tout. Et de même, je crois que il ne reste plus pour Saül qu'à faire confiance à Dieu et à lui obéir. Toujours ce gros mot qui revient. Hein, j'aime beaucoup ce vieux cantique anglais, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus. Fais confiance et obéis, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus. Oh, ce cantique, il est difficile à avaler. Hein. Il est difficile à avaler. Et je me souviens, quand j'étais jeune, chaque fois que j'étais un peu en boule, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un le chantait ou je le lisais quelque part, je disais, oh, encore, trust and obey. Fais confiance et obéis. Fais confiance et obéis. Fais confiance et obéis. C'est vraiment des gros mots, tout ça. De même, en Jésus, Dieu nous a tout donné. Toutes les confirmations nécessaires, on les a. La Bible dit aussi, hein, vous avez tout pleinement en Christ. Il ne nous reste plus que le plus difficile, croire et obéir. Croire en un Dieu qu'on ne voit pas, et pourtant, les confirmations ne manquent pas, hein, et obéir. Dieu a mis toutes les chances du côté de Saül. Il a donné un roi comme les autres nations. Il n'en est pas resté là, il a fait tout pour que ça marche. Il dispose les circonstances, les rencontres, le cœur de Samuel. Il lui laisse même un peu de temps, il lui donne toutes les confirmations possibles. Il lui donne le Saint-Esprit et il change son cœur. Toutes les conditions sont là, toutes. Et je me suis dit, mais pourquoi tous ces détails? C'est vrai, hein, quand on lit tout ça, mais pourquoi? Je pense que Dieu voulait insister. Regardez ma générosité. Regardez ma générosité, même quand vous êtes désobéissant, même quand vous voulez quelque chose trop tôt, parce qu'en fait, il voulait leur donner un roi, mais un petit peu plus tard. Même là, je reste généreux. Et je pense à tout, votre morale, votre physique et votre spirituel, bien sûr. Pour moi, c'est si Dieu a pris le temps de donner tous ces détails, c'est qu'il veut nous dire, mais regardez qui je suis. Je ne suis pas ce Dieu lointain avec mon bâton prêt à vous taper dessus ou le Père Noël de l'autre côté. Non, non, je suis généreux. Je fais tout pour que ça marche et vous allez apprendre des choses. Et si on veut bien regarder en arrière, je crois que tous, même les plus jeunes, on va constater que Dieu a tout fait pour nous faire réussir notre vie. Dieu a tout fait. Même les échecs, il les a prévus pour nous aider à grandir. Les difficultés, les épreuves ont souvent été dans nos vies des sources de bénédiction. Regardez un peu en arrière. Parfois, je suis sûre, vous pouvez dire, ah oui, si je n'avais pas vécu ce problème, je n'aurais pas vécu ça. Si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas eu ça. Si je n'avais pas été au chômage à ce moment-là, il n'y aurait pas eu ça. Et je suis sûre, je vois des gens qui hochent la tête. Donc, je pense que, voilà, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et qu'est-ce que Saül va faire de ça? Alors, dans un premier temps, je vais être obligée de m'arrêter, dans un premier temps, il obéit. Même si les gens sont surpris. Et là, ça m'a amusée. Il se laisse aller, il prophétise avec les prophètes. Et les gens sont là. Et ça aussi, c'est un peu louche. Hein. Vous ne connaissez pas Samuel, là. Et puis là, il se met à prophétiser et les gens sont là. Quoi? Saül serait parmi les prophètes? Ah ben, première nouvelle. Donc, il ne devait pas être net quand même, le gars, spirituellement. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Et pire que ça, d'après certaines traductions, on pense que quand ils disent « Mais qui est le père de ces prophètes ?» ça veut dire « C'est qui le responsable de ces prophètes d'avoir accepté un gars comme Saül ?» Il semblerait, d'après certaines traductions, que c'est ça que ça veut dire. Mais qui c'est le responsable de cette troupe de prophètes qui a accepté un gars comme Saül qui prophétise avec eux ? Ça serait cohérent, peut-être, hein, je dis bien, c'est certaines traductions seulement. Bon, peut-être que Saül n'était pas très engagé, on l'a remarqué. Mais Samuel va rappeler au peuple la parole de Dieu et il va désigner Saül par le sort. Ça, on reviendra là-dessus la prochaine fois. C'est dommage, encore un peu trop, on n'a pas le temps. Mais au moins qu'on garde en mémoire, d'après ce texte, avec plein de détails. Alors, il y a aussi les statisticiens, les mathématiciens. Vous savez, les mathématiciens, quand ils lisent la Bible, ils voient des choses différentes de nous. Et ils disent, ils ont fait le calcul statistique. Vu le nombre de détails qui ont été donnés, il y avait une chance sur 1 million et quelques que ça se réalise. Voilà, bon. Mais l'idée est simple, c'est que quand Dieu veut quelque chose, il accumule les détails, il accumule les circonstances, il fait tout pour nous confirmer les choses. Et ça aussi, que ça ne nous fasse pas peur, parce que j'ai vu ça parfois, les gens disent « Oui, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, faites confiance à Dieu. Demandez-lui sincèrement, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ferme les portes, mets des obstacles. » Il le fait. Quand on lit un texte comme ça, on se dit « Wow, quand il est capable de faire perdre des ânes, de faire rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, allez, pas de souci, on peut lui faire confiance pour diriger notre vie, pour que notre vie soit réussie et qu'on puisse vraiment rentrer dans sa volonté. » Amen.
C'est quoi les statistiques ? 1 sur 1.